Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui que l'Église célèbre la fête de la mère de la Bienheureuse Vierge Marie, l'aïeule de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Sainte Anne, femme de Saint Joachim. La tradition nous a pris son nom, la Providence nous a conservé ses reliques, la piété nous a transmis son culte. L'Église la célèbre en demandant à Dieu ses suffrages pour nous, nous qui sommes encore en état de voix, afin qu'elle intercède pour nous. Mais le plus grand hommage que nous puissions lui rendre est peut-être de ne pouvoir rien dire d'elle, sinon qu'elle a correspondu à la volonté de Dieu selon son état. Aussi, les textes de la messe d'aujourd'hui sont ceux du commun des noms, de ce qu'on appelle dans le missel, le commun des non-vierges, c'est-à-dire des femmes mariées. Nous avons donc à voir deux choses aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Quelques considérations sur Sainte Anne et comment, à son exemple, on contribue à l'œuvre de Dieu sans le savoir parfois et en tout cas sans le chercher. Et nous, en deuxième partie, il n'y aura que deux parties dans ce sermon, nous verrons le tableau de la femme selon le cœur de Dieu, avec un abrégé, très abrégé, de la doctrine du rôle, de la fonction et de l'état de la femme catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci, frère.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Vous avez aimé la justice et détesté l'iniquité. C'est pourquoi le Seigneur, votre Dieu, vous a ointe de l'huile d'allégresse. C'est le graduel, mes très chers frères, que l'on trouve dans la messe de Sainte Anne. On ne sait quasiment rien de Sainte Anne. Il y a bien une légende, c'est-à-dire une tradition faible, disons, qui nous raconte l'histoire, cette histoire de ce couple de personnes déjà un peu avancées en âge, qui n'avaient pas eu d'enfants, Saint Joachim et sa femme Sainte Anne, Saint Joachim qui était de la tribu de Judas, qui s'approche du temple pour célébrer Dieu, et les prêtres lui font remarquer qu'il est un homme qui est sujet à la malédiction divine, ou du moins à la réprobation, la non-bénédiction divine, disons, parce qu'il n'a pas eu d'enfant, et vous savez qu'il s'en va, tout triste, garder ses brebis dans le désert, tandis que Anne, en quelque sorte, attend son mari à la maison, en se morfondant quelque peu, tout en priant en Dieu qu'elle lui accorde un enfant. Et nous savons que tant elle que son mari ont eu la visite d'un ange qui leur ont annoncé qu'ils auraient un enfant, et cet enfant serait la Sainte Vierge. Donc c'est une histoire qui ressemble à bien des histoires dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau. C'est une histoire qui ne nous intéresse pas énormément parce que c'est une histoire qui vient de la petite tradition, donc nous devons l'admettre pieusement, mais elle ne nous accoupera pas aujourd'hui. Voyons simplement certaines choses sur le personnage de Sainte Anne, qui, comme la très Sainte Vierge Marie, et peut-être plus encore qu'elle, est un personnage extrêmement discret dans l'Évangile. La Sainte Vierge a parlé très peu, elle a fait beaucoup, bien entendu, puisqu'elle nous a donné le Fils éternel de Dieu, donc elle est notre mère, elle est la mère de Dieu, mais elle est en filigrane dans l'Évangile. Et Sainte Anne l'est tellement qu'on ne parle même pas d'elle dans l'Évangile. On ne sait rien de Sainte Anne, mes très chers frères, sinon qu'elle a été la mère de la très Sainte Vierge Marie. Elle n'a été connue de cette qualité, dit un auteur, de personne dans le monde. Et cette qualité, elle-même, ne l'a pas connue. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut admettre que par une certaine révélation divine, elle a perçu que sa fille serait et était destinée à une destinée tout à fait exceptionnelle, et peut-être même qu'elle serait la mère de Dieu. Mais elle n'a pas demandé à ce que sa fille soit la mère de Dieu, elle a demandé simplement à avoir un enfant pour pouvoir avoir la bénédiction temporelle de Dieu. Elle ne s'est pas gargarisée d'elle-même en se disant « je suis la mère de Dieu ». c'est un personnage invisible, et c'est pour cela qu'elle est intéressante. Heureux celui, nous dit un auteur spirituel, heureux celui qui participe à quelques grâces de Dieu et qui n'est connu que de lui. Vous voyez, mes très chers frères, le désir ardent de faire quelque chose pour l'Église, pour la société, pour Dieu, etc., que sais-je, est bien souvent la cause, et je dirais même toujours la cause, de la grande stérilité qui frappe toutes les œuvres d'aujourd'hui. Le désir de faire quelque chose. Le désir de faire quelque chose s'oppose au fait de faire la volonté de Dieu telle qu'elle se manifeste et qu'elle se révèle dans l'état où Dieu nous a placés. La conformité à la volonté de Dieu selon notre état est, nous disent tous les auteurs spirituels, est la disposition de la fécondité spirituelle et temporelle. Et cette fécondité n'est peut-être pas connue de celle qu'elle qualifie. C'est-à-dire qu'en faisant ce qui relève de notre état, nous savons que nous contribuons à l'œuvre de Dieu, alors même que nous ignorons comment. Lorsque nous voulons faire quelque chose pour Dieu, et que nous faisons quelque chose de notre propre chef, bien entendu, eh bien, il se trouve que nous avons l'impression de voir comment l'œuvre de Dieu est corroborée, appuyée, développée, et pourtant, nous sommes les seuls à voir, puisque Dieu détourne son regard de nous, et il ne veut pas bénir ce que nous faisons, malheur à nous, si nous prospérons dans ce que nous faisons, alors que nous faisons notre volonté propre. Ça veut dire que notre bénédiction est plutôt une bénédiction du diable ou de la chair, et non pas de Dieu, en tout cas. Donc vous voyez, Sainte Anne est un modèle de méconnaissance de soi. Souvent, et c'est surtout dû à la mentalité moderne, nous avons peur de nous méconnaître, ou nous avons peur de ne pas être aussi conscients que nous pourrions l'être, parce qu'il nous semble que nous passons à côté d'une partie essentielle de ce que nous sommes, de ce que nous croyons que nous devons être. Si nous nous méconnaissons, nous ne sommes pas au fait de ce que nous pouvons réaliser. C'est une erreur, mes très chers frères, c'est une erreur. Ou plutôt, nous devons nous connaître tel que Dieu nous connaît, c'est-à-dire, je ne parle pas de ce que nous sommes dans le Christ par le baptême, etc., ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais nous devons nous connaître tel que Dieu nous connaît, c'est-à-dire tel que Dieu nous a donné un devoir. Lorsque je suis prêtre, je dois me connaître en tant que prêtre. Or, lorsque je suis père de famille, mère de famille, religieux, etc., je dois me connaître tel que Dieu me connaît, en quelque sorte classifié dans tel ou tel état. Et notre mentalité moderne nous fait dire souvent que comme cet état qualifie encore plein d'autres personnes à côté de nous, peut-être que c'est nous connaître sous un angle trop peu intéressant, trop générique, pour pouvoir être vraiment utile à Dieu, évidemment, c'est-à-dire surtout à nous-mêmes. En réalité, c'est une erreur, mes très chers frères. Si, en tant que prêtre, je sais que Dieu me connaît en tant que prêtre et qu'il requiert de moi et qu'il demande de moi, c'est pour ça que je n'ai pas besoin de demander des révélations particulières, qu'il requiert de moi ce qu'il a demandé à tous ses prêtres de tout temps, je ne vais pas me retrouver en quelque sorte noyé dans la foule des prêtres, en quelque sorte, si, sous un certain rapport, mais c'est pour le bien, mais je parle au moderne, ce n'est pas me retrouver finalement noyé dans la foule des prêtres, je vais me retrouver muni d'un immense enseignement qui va pouvoir me permettre d'être aussi parfait, de savoir en tout cas comment être aussi parfait que je dois l'être dans ma fonction de prêtre, dans mon état de prêtre. Même chose pour l'état de père, de mère, de religieux, de veuve, que sais-je, de vierge. Tous ces états sont des états très attestés, massivement attestés dans l'Église. Donc, massivement, en quelque sorte, qui ont massivement collecté un enseignement. Nous avons quand même la chance de vivre 2000 ans après le Christ, nous avons un grand enseignement. Ne disons pas que ceux qui ont vécu avant nous avaient moins d'enseignement, ils étaient plus près de la source, donc ils n'avaient pas besoin de tout cela. Mais nous qui vivons très loin de la source, nous avons tous cet enseignement pour pouvoir le mettre en pratique. Nous n'avons pas à essayer de nous chercher des états ou de nous chercher de nous connaître d'une façon tellement originale, que il semble que la loi de notre État est encore à inventer. Et la plupart du temps, ça nous intéresse plus d'inventer la loi de notre État plutôt que de suivre une loi qui est un chemin très tracé, très balisé, dans lequel nous n'avons qu'à marcher et même à courir, dans lequel nous pouvons courir. C'est pour ça que le psalmiste dit qu'il court dans la voie des commandements de Dieu, et c'est peut-être la plus belle chose que nous puissions faire ici-bas, de courir dans les commandements de Dieu, de grâce en grâce, de perfection en perfection, avec l'aide de Dieu sans lequel nous ne pouvons rien. Donc, vous voyez, mes très chers frères, heureux celui que Dieu choisit pour contribuer à l'établissement de quelqu'une de ses œuvres et de ses desseins, soit en l'affligeant, soit en l'appauvrissant, soit en permettant qu'il ne soit pas honoré ou en le faisant mourir. Sainte Anne a été bienheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été tentée par l'orgueil. On peut tous être tenté, bien entendu. Mais si Dieu lui avait dit d'une façon très solennelle, et d'une façon attestée, surtout par l'Écriture sainte, qu'elle serait la mère de la mère de Dieu, elle aurait pu s'enorgueillir peut-être d'une façon plus facile que la Sainte Vierge. Premièrement, parce qu'elle n'était pas l'Immaculée Conception, contrairement à la Sainte Vierge, qui est cette demeure digne de son Fils, qui a été préparée par le Fils éternel de Dieu, le Saint-Esprit coopérant, à cette œuvre, et de telle sorte que la Sainte Vierge était si humble qu'elle s'est plutôt inquiétée de ce privilège qui lui était annoncé par Saint Gabriel, plutôt qu'elle s'en est enorgueillie. Mais lorsque vous êtes une femme très pieuse, et qu'un ange vient vous annoncer que vous serez la mère de la mère de Dieu, la mère du Sauveur, la mère du Messie, vous avez moins, sans doute moins de protection contre l'orgueil. Et c'est pour cela qu'elle ne l'a pas su. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas su, encore une fois, absolument, si certains auteurs veulent qu'elle l'ait su, bon, je veux bien qu'elle l'ait su. Ce sont des opinions pieuses. Il ne faut pas les combattre, mais il ne faut pas non plus les absolutiser. Elle n'a rien su. Tout ce qu'elle a su, c'est qu'elle devait être une femme digne de Dieu, une épouse digne de son état d'épouse, et que, ce faisant, nous savons qu'elle a mérité d'être la mère de la mère de Dieu, l'aïeule de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux celui que Dieu choisit pour contribuer à l'établissement de quelqu'une de ses œuvres, et qu'il empêche de savoir comment, qu'il tient dans l'ignorance de soi. Ce que nous savons de certains sur Sainte Anne, mes très chers frères, c'est qu'elle a été parfaite dans son état, qu'elle a mené une vie sainte et cachée, qu'elle a été une épouse et une mère selon le cœur de Dieu. À ce titre-là, Sainte Anne est un modèle pour les femmes chrétiennes. Sainte Anne est unie à la très sainte Vierge Marie, elle est unie à toutes les saintes femmes, à Sainte Anne aussi, la mère de Samuel dans l'Ancien Testament. Elle est un modèle pour toutes les femmes, et c'est pour cela que l'Église, dans les textes de la messe des femmes mariées, eh bien, nous propose le 31e chapitre des Proverbes, qui a été donné à Salomon par sa mère, Bethsabée, afin de l'enseigner sur la valeur et sur la valeur d'une femme et ce que l'homme doit chercher dans une femme. Nous allons donc maintenant, avec l'aide du Seigneur, parcourir ces textes, ce texte du 31e chapitre du livre des Proverbes, qui est véritablement le tableau de la femme chrétienne, de la femme parfaite, de la femme forte. Qui trouvera une femme forte? Elle est plus précieuse que ce qui s'apporte de l'extrémité du monde. Avant de commencer, mes très chers frères, ce très bref survol de ce chapitre fondamental, nous devons dire que, parce que nous sommes en modernité, cet inconvénient exige de nous que celui, mais surtout celle qui lit ce chapitre, se débarrasse des a priori de la mentalité qui est la sienne, de telle sorte qu'elle ne fasse pas de contresens. L'expression « femme forte » est une expression qui existe, elle existe et elle est souvent utilisée avec une certaine ironie, ou bien en mal, en laissant entendre que ce sont des femmes qui ne sont pas à leur place, ou alors avec une certaine ironie dans le sens où c'est une femme qui en quelque sorte fait de l'ombre à l'homme, parce qu'elle est forte, parce qu'elle est virile, disons, dans le bon sens du terme, là où beaucoup d'hommes sont de type efféminé, sinon en réalité, sinon, du moins dans leur esprit, c'est-à-dire qu'ils sont symboliquement des femmes, c'est-à-dire ils sont faibles, ils sont timorés, ils sont imparfaits. Lorsque la femme chrétienne lit ce chapitre de l'Écriture sainte, elle doit bien comprendre ce qui est dit. En réalité, ce chapitre, nous disent les exégètes, fait partie, donc c'est la conclusion du livre des Proverbes, qui est un livre divin tout à fait merveilleux, et c'est la conclusion du livre des Proverbes, et avant cela, il y a un résumé des devoirs du roi. Il y a donc un résumé des devoirs du roi, et il y a un résumé des devoirs de la femme. Le roi et l'épouse sont en quelque sorte les deux conditions suprêmes de l'état masculin et de l'état féminin. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des rois, ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont forcément des épouses ou des épouses d'un homme puissant, qui correspondent littéralement à tout ce qui est dit dans la description de cette épouse, qui est presque une princesse, si l'on peut dire. C'est une femme qui est à la tête d'un grand domaine, de beaucoup de serviteurs, et de laquelle le mari siège à la porte, c'est-à-dire au tribunal. Donc il se trouve que nous devons comprendre que la femme chrétienne qui lit ce livre en modernité, qui lit ce chapitre en modernité, doit comprendre qu'il s'agit d'un enseignement sur les devoirs de la femme, et non pas sur, ce n'est pas, qui suit les devoirs de l'homme, et ce n'est pas une sorte de manifeste féministe. Évidemment, vous allez dire, c'est évident, mais qui en doute? Oui, j'espère que personne n'en doute. Qui trouvera une femme forte? Elle est plus précieuse que ce qui s'apporte de l'extrémité du monde. Alors, entrons dans le vif du sujet, vous verrez comment, quand on comprend bien avec l'aide de la tradition, ce passage, on ne peut pas être moderne, on ne peut plus être moderne. La femme forte, ici, est une femme qui est recherchée. Qui trouvera une femme forte? Donc, vous voyez, le premier verset de cet enseignement sur la doctrine de la femme chrétienne est un verset qui subordonne la femme à l'homme d'une façon univoque. C'est-à-dire que la femme est recherchée par l'homme. Qui trouvera une femme forte? Elle est plus précieuse que ce qui s'apporte de l'extrémité du monde. Toutes les denrées les plus rares et les plus précieuses n'équivalent pas à une femme qui est une femme selon le cœur de Dieu. Donc la femme forte n'est pas une femme indépendante, mais une femme campée dans son état, ce qui est tout à fait différent. La femme moderne a l'impression, mais ce n'est pas une réfutation du féminisme ici, parce que nous avons beaucoup mieux à faire, mais de temps en temps, nous faisons quelques allusions. La femme moderne, ou même la chrétienne, a l'impression que pour pouvoir être vraiment forte, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment faire ce que Dieu, entre guillemets, attend d'elle, c'est-à-dire ce que sa volonté propre attend d'elle, elle doit être dans la plus grande indépendance possible. Une femme, aujourd'hui, il y en a quelques exemples malheureusement, mais qui veulent enseigner les femmes sur leurs devoirs, etc., doivent surtout être des célibataires absolument sans aucun engagement et sans aucune soumission à qui que ce soit, à quoi que ce soit, de telle sorte qu'elles puissent librement faire en toute liberté leur travail, de telle sorte que, recueillant le fruit de leur labeur par le biais de tipis et autres choses comme cela, elles puissent être travaillées en toute liberté. Eh bien, c'est exactement le contraire de la femme forte. La femme forte, si vous me permettez la comparaison, est d'une certaine manière, et ce n'est pas du tout une comparaison dépréciative, mais est recherchée comme un maître recherche d'excellents serviteurs. C'est-à-dire, il recherche un excellent serviteur pour être un intendant auquel il puisse tout confier dans sa maison. Un peu comme Putiphar, ayant acheté l'esclave Joseph, qui venait de lui être vendu par les Madianites, s'est aperçu qu'il était un économe tellement excellent qu'il lui a remis l'entièreté de ses biens. Alors vous allez dire, vous êtes en train de comparer la femme à un esclave. Non, je dis que la femme ou l'esclave de très grande qualité sont des choses que l'homme recherche. Sous un certain rapport. Ça ne veut pas dire que la femme est un esclave, ça n'a rien à voir. Sinon, on parlerait de l'esclave, l'esclave fort, l'esclave forte, ça n'a rien à voir. Comprenez bien, ne soyez pas de mauvaise foi, mes très chers frères. L'homme est le chef, et le chef cherche à s'adjoindre des éléments excellents. Putiphar a remis tout le soin de sa maison à Joseph. De même que plus tard, ce même Joseph sera le vice-roi d'Égypte, et le roi d'Égypte, Pharaon, lui remettra absolument tout ce qui concernait le soin de son état. Le mari, un homme qui veut se marier, cherche une femme forte. Et si la femme veut être une femme forte, elle doit se mettre dans cette situation mentalement où elle doit comprendre que pour être pleinement ce qu'elle doit être, à l'égal de Sainte Anne, elle doit être digne de l'estime de son mari ou de son futur mari. La femme forte, ce n'est pas une femme indépendante qui s'adjoint à un mari. La femme forte, c'est une femme qu'un mari, un pieux et un saint mari potentiel, désire, à laquelle il désire se marier, qu'il désire épouser. Voilà ce qu'est une femme forte. Qui trouvera une femme forte? Vous voyez, on parle de l'homme ici. Qui trouvera une femme forte? Elle est plus précieuse que ce qui s'apporte de l'extrémité du monde. D'ailleurs, le deuxième verset dit ceci: le cœur de son mari met sa confiance en elle et il ne manquera point de dépouille. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la deuxième partie de ce verset, mais Regardez la première. Le cœur de son mari met sa confiance en elle. C'est exactement ce que je viens de dire. Du moment où le mari a une femme forte, selon le cœur de Dieu, selon ce qui est décrit dans le livre des Proverbes, alors, véritablement, il met sa confiance en elle. Combien de maris peuvent mettre leur confiance en leur femme et se reposer entièrement sur elle? C'est une question que nous pouvons nous poser. La femme forte est donc une femme qui est campée dans son état. C'est une femme qui possède l'entièreté de la force que Dieu donne selon les états, parce que justement, elle est soumise à son mari. Si la femme n'est pas mariée, évidemment, vous allez dire, et si je ne suis peut-être, je ne suis pas mariée, je lis ce verset, comment est-ce que cela peut s'appliquer à moi? Eh bien, d'une certaine manière, si la femme n'est pas mariée, elle doit vivre selon l'état des vierges, ou des pénitentes, ou des veuves. C'est-à-dire, elle doit pratiquer la pudeur, la modestie, elle doit être, d'une manière ou d'une autre, sous une certaine tutelle, ne serait-ce que morale, ne serait-ce que de l'Église, des prêtres, et en tout cas, elle doit être dans l'obscurité. C'est un honneur, mes très chers frères et mes sœurs, par l'occasion, c'est un honneur pour une femme d'être mariée. La solitude est une opprobre, d'où la parole du prophète, ôte de nous notre opprobre, etc. Donc, c'est un honneur que d'être marié. Vous allez dire, mais j'ai toujours entendu dire que c'était un plus grand honneur que d'être une vierge consacrée, etc. Oui, bien entendu, c'est une chose que d'être une religieuse, ce qui est l'honneur par excellence, et c'est le meilleur état dans lequel une femme puisse se trouver. Mais il se trouve que, si on fait abstraction des vierges consacrées, il se trouve que le plus haut état, l'état princier, en quelque sorte, de la femme, abstraction faite de l'état religieux, c'est l'état de femme mariée. La femme célibataire, la femme qui n'est pas mariée, la vierge qui est assimilée à une célibataire, c'est-à-dire celle qui n'est pas entrée en religion, mais qui ne s'est pas mariée pour diverses raisons, et j'espère que ce sont pour des bonnes raisons, car il y a des bonnes raisons, bien sûr, est inférieure à la femme mariée. Parce que la femme mariée est, en quelque sorte, est dans l'état le meilleur, si on fait abstraction, encore une fois, de la religion, duquel nous ne parlerons pas du tout aujourd'hui ici, parce que ce n'est pas notre sujet. Donc nous voyons que c'est un honneur pour une femme d'être mariée, et sous un certain rapport, sous le rapport de l'honneur de la femme mariée, c'est une sorte de déshonneur ou de déchéance que de ne pas être mariée quand on n'est pas religieuse. Encore une fois, nous ne parlons pas des religieuses qui ont l'honneur d'être les épouses du Christ, et c'est tout à fait différent, ça n'a strictement rien à voir avec les autres états féminins, c'est un état qui est consacré, donc c'est un état qui est beaucoup plus proche de l'état viril, c'est un état qui est sui generis en soi et qui ne peut être étudié que dans la mesure où on étudie les états cléricaux, religieux, etc. Donc c'est un honneur pour une femme d'être mariée, et la solitude est une sorte d'opprobre. Alors on va objecter, oui mais depuis que nous sommes sous la loi de grâce, ce n'est plus une opprobre parce que patati patata. Oui, ce n'est pas faux, mais je parle pour les modernes. Une femme célibataire qui travaille, qui est toute seule chez elle, et une femme célibataire qui fait toutes sortes de vidéos, d'enseignements, de conférences, etc., n'est pas dans un état honorifique. La femme célibataire qui a des diplômes, la femme célibataire qui est chef d'entreprise, que sais-je, elle est peut-être heureuse selon son genre, elle n'a pas l'honneur de la femme mariée. La femme mariée possède l'état qui domine de loin tous les autres états. C'est donc un honneur pour une femme d'être mariée. Or, on ne peut être marié qu'avec un homme, évidemment, ça va de soi, mais on ne peut être marié, c'est-à-dire la femme mariée ne peut être que dans un état de subjection à son mari. Donc on voit que si la femme veut être honorée, elle doit être dans un état honorable, elle doit être mariée, et donc elle doit être forte, c'est-à-dire campée dans son état, et son état est un état qui est d'une parfaite ordination à son mari. Sans cela, il n'y a que désordre, et on a beau être marié, on n'est pas béni par Dieu. Que Dieu nous garde, et vous garde, mes très chers sœurs, de cet état terrible de désordre. Que dit encore l'Écriture? Elle lui rendra le bien et non le mal pendant tous les jours de sa vie. Prenons en compte ce qui est dit, mes très chers frères. Redet illi bonum et non malum. Elle lui rendra le bien et non le mal pendant tous les jours de sa vie. Il y a ici quelque chose de très important pour vous, mes frères, qui êtes mariés, c'est que la femme est dite ici « rendre quelque chose à son mari ». Donc ça veut dire qu'elle reçoit de son mari en premier. J'ai dit que c'était un honneur pour la femme d'être mariée, et c'est un honneur pour l'homme que d'assumer son état vis-à-vis de la femme à laquelle la Providence a permis qu'il soit marié. Donc, redet, ici, elle lui rendra, implique le devoir du mari vis-à-vis de sa femme. Marie, époux, aimez vos femmes comme le Christ aime l'Église. Qu'un mauvais mari, donc, mes très chers frères, nous disent les moralistes de tous les temps, qu'un mauvais époux ne s'étonne pas s'il a une mauvaise femme. C'est la tête qui donne le ton. Est-ce que les hommes ne se plaignent pas de leurs femmes si les femmes deviennent mauvaises, et il faut qu'ils se regardent eux-mêmes, s'ils sont mauvais, leurs femmes, ils ne peuvent pas s'étonner si leurs femmes deviennent mauvaises. Souvent, on se laisse aller à tort, bien entendu, à des propos qui sont des propos dépréciatifs, où on parle des femmes d'une façon qui n'est pas honnête, parce qu'elles sont ceci, cela, rebelles, méchantes. Il y a de la vérité dans tout cela, c'est un fait malheureusement, mais il ne faut pas en parler comme cela, parce que c'est un petit peu comme si des parents criaient sur leurs enfants en les traitant de mal élevés. C'est peut-être la chose la plus ridicule qui puisse arriver quand des parents disent à leurs propres enfants « Petit, vous êtes très mal élevé, mais la faute à qui ?» S'il y a bien quelqu'un qui élève les enfants, c'est les parents. Donc les parents peuvent dire « Mes enfants, vous êtes méchants, vous êtes rebelles, vous êtes cruels, vous êtes ci, cela. » Ils ne peuvent pas dire « Vous êtes mal élevé. » Donc si le mari se plaint de sa femme en disant « C'est une mauvaise femme », eh bien il faut, ce n'est pas univoque bien entendu, car il peut y avoir des individus qui sont mauvais, tant hommes que femmes, mais il faut qu'il se rende compte qu'avant de dire « Mon épouse est mauvaise », c'est peut-être, il faut qu'il se pose la question « Est-ce que cette épouse n'a pas un mari qui est mauvais ?» C'est pour cela que celui qui occupe la place du chef doit toujours veiller sur lui-même afin de ne pas avoir une mauvaise influence sur ceux qui lui sont subordonnés, et spécialement l'époux sur l'épouse. Redet, elle lui rendra le bien et non le mal. La femme ne peut rendre le bien à son mari que dans la mesure où le mari lui-même lui donne le bien dont elle a besoin. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, nous passerons très rapidement parce que nous voulons nous concentrer sur le rôle de la femme. Mais c'est un rapport au rôle du mari vis-à-vis de la femme. Le mari ne doit pas être un tyran, ne doit pas être un oppresseur, ce n'est pas un gardien de chiourme qui garde des prisonniers ou une prisonnière, c'est véritablement un roi qui pourvoit à ce que sa reine, si j'ose dire, sa femme, son épouse, possède les biens dont elle a besoin pour pouvoir être campée dans son état. Le devoir particulier et principal du mari, c'est de ménager à sa femme la place de son état. Si le mari est tout le temps fourré dans les affaires de la femme, qui relèvent expressément de la femme, où est-ce que la femme pourra aller, sinon en dehors de son état ? Si le mari est constamment en train de se mêler des affaires qui appartiennent à la sphère féminine, la femme nécessairement sera poussée, à moins qu'elle se batte avec son mari, mais la plupart du temps ça ne se peut, elle sera poussée, et ça ne serait pas une bonne chose, elle sera poussée en dehors de son état, et les maris qui s'intéressent, ou qui s'occupent plus précisément, il faut s'intéresser, mais il ne faut pas s'occuper, comme si c'était de son propre devoir, des choses qui relèvent de l'état, du devoir de l'état de sa femme, ne doivent pas s'étonner si sa femme, par un mouvement de vase communicant, vient s'occuper de ses affaires, et ça ne sera pas à lui de dire « mêle-toi tes affaires, la femme, ah oui, mais alors, si la femme doit être à la cuisine, le mari ne doit pas être à la cuisine, si j'ose dire ». Pour prendre une expression populaire, la femme à la cuisine. Oui, alors le mari doit être à la salle à manger, il attend ce qui vient de la cuisine, c'est pas qu'il ne peut pas avoir quelques désirata, mais c'est-à-dire que chacun dans son domaine, chacun dans son devoir, le mari ne doit pas empiéter sur le devoir de la femme, s'il ne veut pas que la femme empiète sur le devoir, sinon de son mari, du moins de l'homme, ou des devoirs autres, mais enfin la plupart du temps, la femme empiète sur le devoir de l'homme, et l'homme empiète sur le devoir de la femme. Donc cela implique le devoir de l'homme vis-à-vis de la femme. Maintenant, évidemment, très chères sœurs, il faut aussi faire attention que, toutefois, la femme se doit de rendre toujours le bien à son mari, quelles que soient les fautes de celui-ci. Il ne faut pas dire « j'ai un mauvais mari, donc je vais l'en faire baver parce que, normalement, dans l'ordre des choses et dans la doctrine de l'ordre des choses, le chef doit pourvoir ce qui est bon à son corps ». De telle sorte que le corps ne se corrompt si la tête ne l'entretient pas. C'est vrai, mais vous êtes chrétienne, vous êtes baptisée. Donc vous avez un devoir vis-à-vis de Dieu, avant tout, qui est le devoir de rendre le bien et non le mal. Si le mari doit prendre conscience qu'il ne peut pas s'attendre à ce que sa femme lui rende le bien, si lui-même ne lui fait pas du bien, La femme doit se rendre compte que son devoir, c'est de rendre le bien et non le mal à son mari. Donc même si elle avait un mauvais mari, même si elle avait un mari méchant, même si elle avait un mari qui empiétait sur son devoir d'État, elle devrait ne pas lui rendre le mal, mais le bien. Ça, c'est l'attitude qui est prescrite à tous les chrétiens indifféremment. Quelles que soient les fautes du mari, la femme doit toujours lui rendre le bien pour le mal. Messieurs les maris, donnez du bien à votre épouse de telle sorte qu'elle puisse vous rendre le bien et non le mal pendant tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie indiquent la persévérance, bien entendu. Il ne s'agit pas d'être amical, gentil avec son mari dans la mesure où on veut obtenir certaines choses de lui ou parce que on vient de se marier et donc tout est bien, etc. Et puis on commence à découvrir les défauts de l'autre ou alors de temps en temps, ou alors la femme peut prendre en quelque sorte des vacances. On voit ça aussi, c'est très fréquent chez les mondains. J'espère que ce n'est pas vrai chez les catholiques, quoique la femme prend des vacances de son mari, alors elle va entre copines ou toute seule, ou alors avec son meilleur ami qui est un petit peu joyeux, elle va faire des croisières, etc. Bon, tout ça c'est absolument, c'est invraisemblable, c'est quelque chose qui est aberrant. C'est aberrant et c'est condamné par l'Écriture sainte qui dit « pendant tous les jours de sa vie ». Et non pas pendant la majorité de sa vie ou pendant les jours ouvrables, etc. Et puis, il y a aussi, malheureusement, d'autres façons, malheureusement, qui sont assez encouragées, mais de prendre des vacances, c'est de prendre des vacances sous forme de retraite, en disant, vous savez, on a toujours ces exemples des femmes qui, du jour au lendemain, disent à leur mari, « Ah ben voilà, je pars en retraite, je laisse tout en plan, débrouille-toi, les enfants, les couches, les repas, etc. Moi, je pars en retraite pour me ressourcer auprès du bon Dieu. » Ce n'est pas bien. Il y a peut-être des retraites pour les dames, pour les femmes, pour les mères de famille. Ce sont des choses qui peuvent se faire, bien entendu, mais il faut que tout se fasse avec ordre. Sinon, que dirait la femme dont le mari, tout d'un coup, part en retraite sans le prévenir et sans la prévenir et la laisse en plan? Il y a quelque chose de désordonné dans tout cela. Donc attention, je ne condamne pas les retraites pour les mères de famille, je condamne simplement le fait qu'on puisse les utiliser, comme c'est malheureusement bien souvent le cas, et je ne jette pas la pierre, parce que malheureusement, il y a dans bien des communautés, bien des chapelles, on pousse les femmes à bout à cause de la mauvaise attitude des maris, qui sont tout à fait, en dehors de leur état. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, il se trouve qu'il faut que tout se fasse avec ordre, avec bienséance, de telle sorte que la retraite ne soit pas le prétexte pour se désister de son devoir. Il y a aussi des livres abominables qui circulent depuis malheureusement assez longtemps parmi les femmes catholiques, même chez nous, et qui préconisent que de temps en temps, eh bien, la femme prenne la voiture pour aller décompresser un petit peu, puis qu'elle écoute de la musique à fond la caisse, qu'elle hurle, tout ça pour pouvoir venir toute bien reposée à reprendre les combats de la famille. Tout ceci est très mauvais, tout ceci est extrêmement mauvais, et malheureusement, c'est une chose terrible de savoir que ces mauvais livres sont transmis de mère en fille, de belle-mère en belle-fille, etc., et qui ont toujours pour but de saper l'autorité du mari. Donc, messieurs, si vous savez que tel ou tel livre, comme les mères, mères débordées, je ne me rappelle plus du titre exactement, ou d'autres encore, ce sont des livres qu'il faut absolument bannir de vos foyers, puisque le peu de bien, le peu de bons conseils, parce qu'il y a toujours des bons conseils dedans, je ne le nie pas, mais le peu de bons conseils qu'ils puissent trouver sont complètement contrebalancés par une attitude tout à fait mauvaise, tout à fait mauvaise. Et d'ailleurs, à l'introduction de ce livre, il est dit que cette femme, cette dame, donc c'est un livre malheureusement qui est vendu par tous les vendeurs de papier que l'on trouve dans les sphères dites catholiques, c'est une femme qui dit, je crois, si je me souviens bien, au début de ce livre, elle dit que jusqu'à un certain point dans sa vie, elle a essayé d'être une femme soumise dans le régime patriarcal, etc. Et puis un jour, elle a lu une encyclique de Jean-Paul II et sur les femmes, et elle a compris en réalité certaines choses, et donc à partir de là, tout a volé en éclats, et elle est devenue la femme forte dont son mari n'a plus à laquelle son mari n'a plus à s'imposer. Bon, tout ceci est simplement de la diablerie, tout ceci vient de Satan. Bien sûr, encore une fois, l'homme doit être sévèrement mis en garde, qu'il doit, encore une fois, comme j'ai essayé de le faire, qu'il doit accomplir son devoir, et il ne doit pas s'attendre, s'il se désiste de son devoir, que sa femme accomplisse son devoir. Mais il se trouve qu'il ne faut pas encourager la femme contre l'homme, et surtout pas la femme, l'épouse, contre le mari, puisqu'il y a là quelque chose de dramatique. Et ce sont des livres donc à brûler, à détruire, à si tant est que ça soit encore possible. Tous les jours de sa vie, donc il y a donc une notion de persévérance, c'est tous les jours de sa vie, et c'est pour cela, comme dit le proverbe bulgare, qui veut aller loin doit ménager sa monture. C'est-à-dire que la femme doit s'imprégner de cette doctrine, s'imprégner aussi de la vision du monde qui sous-tend la doctrine de ce 31e chapitre des Proverbes, afin qu'elle puisse entrer dedans et servir son mari tous les jours de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Vous voyez, et pas uniquement de temps en temps ou quand elle le veut bien. Allons un peu plus loin. Verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle a partagé le butin à ses domestiques et la nourriture à ses servantes. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. La paresse, la nonchalance sont des choses à bannir, bien entendu. La maîtresse de maison doit être digne de sa tâche. Mais il y a une erreur, générale lorsque l'on lit, avec des yeux modernes, ce 31e chapitre des Proverbes. Une erreur consiste, c'est une erreur qui est complexe, parce que c'est une erreur qui est une erreur en combattant une erreur qui est une autre erreur. C'est-à-dire que, sous prétexte que le féminisme veut absolument lancer la femme dans le monde du travail libéral tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui est une servitude, il se trouve que les antiféministes, qui ne sont jamais que des féministes, mais d'un autre genre, les antiféministes disent qu'en réalité, il ne s'agit pas de savoir si la femme doit travailler ou pas travailler, puisque de toute façon, dans les temps traditionnels, la femme travaillait, et dans le 31e chapitre des Proverbes, là, on voit très bien que la femme travaille. Ce sont deux furies qui s'entre-déchirent. Elles sont toutes deux des monstres. En réalité, mes très chers frères, il ne s'agit pas, bien entendu, ici de la description de la femme prise dans la définition du travail dans l'insertion dans l'économie libérale. Mais c'est la femme active dans son état et selon son devoir. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a toutes sortes de choses que la femme forte fait, et on voit que lorsqu'elle est dans une situation d'autorité, comme littéralement cette femme décrite par la mère de Salomon est, il se trouve qu'elle est effectivement à la tête, elle achète des champs, elle plante des vignes, elle fait du commerce de tissus, de vêtements, bien entendu, on voit que... Ce n'est pas donné à toutes les femmes, bien entendu. Ça ne veut pas dire que si une femme est dans l'import-export international, elle correspond à ce que dit le Salomon. Il faudrait prendre un temps infini pour désamorcer toutes les erreurs. Alors, j'espère que vous arriverez à être désintoxiqué très rapidement, mes très chers frères, pour que me permettre de continuer. Cette femme ici est extrêmement active. Elle est active dans son devoir. Elle est active dans son état. Et en fonction, disons, des états pris dans le sens très particulier, si le mari est riche ou si le mari est pauvre, ça dépend, eh bien la femme doit déployer une activité qui est une vraie activité et qui, quelle qu'elle soit la femme d'un esclave ou la femme d'un empereur, elle doit avoir une activité qui se caractérise par le fait que, justement, par exemple, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Alors, littéralement ou pas, ça dépend un petit peu des régimes de vie, mais disons que c'est plutôt le fait que la femme forte, la femme selon le cœur de Dieu, œuvre d'une façon qui est tout à fait antithétique de la paresse, de la nonchalance et évidemment de l'oisiveté dans son état. Il y aurait bien des choses à dire encore, mais nous passons. Sa lampe, nous dit l'Écriture, sa lampe ne s'éteindra point pendant la nuit. On pourrait dire, à strictement parler, que cette femme travaille nuit et jour. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une pauvre esclave qui ne peut pas dormir, bien entendu. Mais ça veut dire que sa lampe ne s'éteindra point nuit et jour, c'est-à-dire qu'elle est constamment en train de faire son devoir. Elle n'a pas un devoir qui est conçu comme simplement un certain nombre de tâches dont elle s'attend, par rapport à laquelle elle s'attend, à être relevée, ou bien par la théorie du partage des tâches moderne, qui est une aberration, quand on le prend dans son sens mesquin, elle doit prendre conscience que si elle est réveillée pendant la nuit, eh bien, elle se retrouve face à son devoir. Elle ne doit pas, les enfants se réveillent la nuit, elle ne doit pas dire nonchalamment à son mari, ben, c'est ton tour d'aller bercer les gamins, moi je me suis réveillé la dernière fois, etc. Non, ce n'est pas comme cela que ça se fait. Ce n'est pas comme cela que ça se fait. Sa lampe ne s'éteindra pas pendant la nuit. La nuit est décrite aussi mystiquement, parce qu'il y a tout un sens mystique à tout ce chapitre auquel je ne fais pas allusion, mais la nuit, c'est aussi pendant que les choses vont mal. C'est-à-dire le mauvais temps. Ça, c'est notre Père qui dit ça. Donc, pendant que les choses vont mal, sa lampe ne s'éteint pas. C'est-à-dire qu'elle continue à faire son devoir, quand bien même elle pourrait être triste, quand bien même elle pourrait être déprimée, quand bien même elle pourrait être malade, quand bien même. Alors, vous allez dire, à l'impossible, nul n'est tenu. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut déployer humainement des moyens surhumains. Mais ça veut dire qu'il faut être conscient qu'à aucun moment, et ça c'est vrai d'ailleurs pour tous les États, à aucun moment nous ne sommes relevés de notre État sous prétexte que nous ne pouvons pas en remplir les obligations. Si nous ne pouvons absolument pas en remplir les obligations, il faut nous faire remplacer, de telle sorte qu'une mère qui ne pourrait pas, par exemple, préparer le repas pour sa famille, parce qu'elle est, que sais-je, malade ou empêchée d'une façon qui est sérieuse, grave, il faut qu'elle veille à ce que sa famille néanmoins ait un repas, que ça soit d'une manière ou d'une autre, qu'elle le fasse faire par quelqu'un d'autre, qu'elle en achète un, ou qu'elle ne doit pas dire, eh bien aujourd'hui je ne peux pas, tu te débrouilles.